Je suis désolée de bousculer un petit peu les intervenants. C'est tellement intéressant qu'on aimerait que ça ne s'arrête pas. Mais malheureusement, nous sommes pris par le temps. Donc, je vais demander aux trois intervenants, Thibaut, Colin, le frère Jacques Vianney et Loïc Lenné, de remonter sur la scène. Et nous allons avoir un petit temps de questions. Trois questions, une à chacun. Voilà. Pour faire la parité. Donc, je vais passer le micro et puis ensuite, nous ferons une pause et je vous donnerai quelques petites indications pour la suite des événements. Alors, voilà. Vous avez un petit peu d'eau si vous voulez. Voilà. Qui veut commencer et une question pour qui ? Bon, alors c'est Gauthier Besse qui se lance. Voilà, à qui s'adresse ta question ?
Plutôt à Loïc. Oui, alors d'abord, je ne sais pas si quand vous avez parlé de convivialité, vous pensiez à Ivan Illich, mais il se trouve qu'Ivan Illich a rappelé que l'austérité était une notion de saint Thomas. Alors là, je ne saurais pas aller plus loin. Donc l'austérité, ça peut être aussi une vertu chrétienne. Et je pense qu'il faut faire attention. Vous l'avez bien dit avec le développement durable, mais à ces mots sympathiques, la sobriété, si elle n'est pas radicale, subversive, voilà, si c'est juste une manière de développement personnel, voilà, elle ne résoudra pas du tout les défis auxquels on est confronté. Voilà. Et du coup, il me semblait que votre intervention, comment dire, éludait un peu la difficulté, parce que vous nous montrez des scénarios, en fait. L'effondrement inévitable, ben, c'est pas qu'il est inévitable, c'est qu'il a commencé. Voilà, on est dans une situation d'effondrement. C'est pas à venir, c'est présent. Alors, on parle pas seulement des dérèglements climatiques, mais je pense que l'exemple le plus clair, c'est la biodiversité. Voilà. Alors là, les chiffres tombent les uns après les autres, incroyables. On n'arrive pas à y croire. Mais bon, là, évidemment, Cyril Frey, je sais pas où il est, enfin, Johannes Herrmann, en parlerait beaucoup mieux que moi. Voilà, donc l'effondrement est là, sur plein de termes, et du coup la question, c'est comment on vit la sobriété. On est bien d'accord sur habiter la terre, la partager. Mais là vont se poser des questions politiques cruciales. Comment on fait pour créer des consensus qui soient à la hauteur des défis, pour ne pas effectivement qu'on tombe dans l'écofascisme, qui est un scénario pour le coup très vraisemblable, comme l'humanité n'accepte pas démocratiquement de prendre la mesure du défi. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour essayer de susciter ce consensus démocratique le plus large possible pour arriver aux changements radicaux nécessaires et urgents ?
Pour allumer. Voilà, ça y est, voilà. J'ai pas la réponse miracle. Je crois qu'on est beaucoup à la chercher. Par contre, alors complètement d'accord avec, je me permets de te tutoyer, avec ce que tu disais, hein, effectivement, on est déjà dans une situation dramatique. Alors je suis passé très vite beaucoup trop vite, sur les solutions. Moi, ce sur quoi j'insiste, enfin sur les solutions, pas sur les solutions, sur les expérimentations qui sont menées dans plein d'endroits. Parce qu'aujourd'hui déjà, beaucoup de personnes cherchent à vivre la sobriété. La question est effectivement que ces démarches individuelles, et quand je dis individuelles, qu'elles soient portées par un individu, une famille, une communauté, un groupe, c'est indispensable, c'est très bien, mais ça ne suffit plus. Donc l'enjeu est effectivement de réussir la mobilisation au niveau global et au niveau politique. Et là, eh bien, je crois que je suis partagé entre le découragement, en me disant que le discours, on a des discours, etc., et ça ne suffit plus, et j'ai envie de dire l'espérance de me dire que ce travail, y a un autre modèle économique qui est en train de jaillir, qu'il faut faire connaître et faire se rencontrer. Je pense que c'est comme ça. Hein, Voilà, c'est mon point de vue personnel. Et je pense qu'en y contribuant, enfin que des rencontres comme celle-ci, tout ce que nous pouvons faire les uns et les autres pour faire réseauter tout ce qui se fait, le faire connaître, le faire émerger, le mettre et proposer un autre récit, une autre vision du monde. Et c'est comme ça que voilà. Alors, je disais, je suis partagé entre ça et le désespoir. C'est que le problème, c'est que l'urgence est telle que est-ce qu'on va être plus rapide que ce voilà, c'est tout. Voilà comment j'y répondrai.
Là est toute la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour le frère Jacques Vianney ou Thibaut Collin? Voilà. Alors, le frère Bernardin, je vous... Voilà. Alors, levez-vous, frère, ça sera plus simple. Voilà, votre question s'adresse à qui?
Aux philosophes et aux théologiens.
Alors, ah donc, c'est une question pour les deux, alors.
Ça ne marche pas? Si, si. Quand je vois que dans la nature, il y a une corruption qui vient du début, du péché originel, on voit qu'il y a une corruption. Quand je vois un requin, par exemple, je n'ai pas trop envie de le rencontrer, ou un lion ou un serpent qui est dans la nature, on voit qu'il y a une certaine corruption. Qu'est-ce que le théologien peut dire ou le philosophe? On ne peut pas dire que ces choses sont bonnes. C'est ça que je veux dire.
Alors c'est sûr que la révélation nous parle... c'est le terme de chute qui est utilisé à ce moment-là. La révélation nous dit que cette création qui a été voulue bonne dès le début a eu une rupture qui est liée à une désobéissance donc qui est inscrite dans les textes bibliques et que nous recevons dans la foi. C'est effectivement le dogme du péché originel qui a, alors là on le voit encore plus, qui a une répercussion non seulement chez l'homme dans cette articulation entre l'âme et le corps, puisque même la grâce du baptême n'empêche pas que les conséquences du péché demeurent malgré ce don de la grâce, et qui a une répercussion aussi sur précisément l'homme dans la nature, voire la nature elle-même. Nous connaissons cet adage que le pape François utilise, Dieu pardonne toujours l'homme de temps en temps et la nature jamais. Il y a donc effectivement dans l'ordre de la nature quelque chose qu'il est très difficile de comprendre, comme est-ce que c'est le principe anthropique, est-ce que c'est les conséquences originelles qui se masquent. Je pensais tout à l'heure, je parlais de la nature masquée, clair-obscur, ou est-ce que c'est vraiment l'impact de l'homme? Là, on est à une fracture qui est difficile d'analyser. Alors, peut-être le philosophe aura aussi lui-même une autre...
Frère, vous voulez éradiquer les requins, c'est ça? Vous dites que les requins, c'est pas bien? Non, mais ça fait partie de l'ordre des prédateurs, donc il y a un ordre naturel. Et justement, il faut pas aborder... On peut avoir tendance à considérer que la nature est mal faite. Bien sûr que... Il peut y avoir un mystère aussi que la foi éclaire, mais en fait, il faut avoir une approche systémique, et c'est souvent parce qu'on a une approche trop circonscrite, enfin, ce que je disais tout à l'heure avec Fukuoka, on va attaquer les insectes parce qu'on va dire, mais comment Dieu a-t-il pu créer, des moustiques, par exemple. Alors, on va éradiquer tous les moustiques, sauf qu'après, on va voir les problèmes etc. Donc, on a toujours tendance, effectivement, avec nos petites lorgnettes, à voir quelque chose qui ne va pas parce que ça ne nous convient pas, et on perd le sens de cette articulation et qui implique effectivement... on pourrait dire certaines limites là au sens du fait que il y a effectivement certaines choses qui obligent l'homme à s'adapter. Donc c'est sûr que parce qu'il y a des requins, il va falloir que je fasse attention, mais c'est pas pour ça que je vais les éradiquer. Donc vous voyez, il y a une sorte de trouver cette bonne intelligence alors après il y a la contingence dans la nature, après il y a des moutons à cinq pattes, etc. Donc, mais cette contingence, elle participe justement de ce déploiement d'une matière, et on ne peut saisir finalement quelque chose qui va apparaître comme anormal ou comme possiblement dangereux que parce qu'il y a justement quand même un ordre profond. Mais bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais...
Merci beaucoup pour ces réponses. Il reste une question possible. Quelqu'un, voilà. Ah oui, alors je vais donner le micro à cette dame parce qu'elle a noté hier que les femmes n'avaient pas souvent la parole. Donc je ne voudrais pas qu'elle nous resserve la même chose. Donc je vous donne la parole, madame, avec plaisir.
Merci. J'avais une question pour le frère Jean Vianney, c'est ça ? Oui, vous avez dit que seul l'homme a reçu la grâce, là, une part divine, enfin l'être humain, je voulais dire. Et en fait, ça m'a interpellée parce que est-ce qu'on ne peut pas dire que le reflet, il y a un reflet divin dans toutes les créatures, même non humaines, comme le dit, je crois, le pape François dans l'Odette aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi une part divine que cette marque qui est inscrite dans chaque créature? Enfin, il y a un reflet. Est-ce qu'on peut appeler ça grâce? Je ne sais pas. Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus.
Alors, effectivement, la théologie est assez précise sur ce thème-là. J'ai parlé en citant Bonaventure du vestige. C'est le premier niveau de participation qui est, je n'ai pas tellement insisté, mais je peux juste dire quelques mots là-dessus. C'est ce que la trace, c'est comme la présence d'immensité du Créateur. C'est présent dans tout ce qui existe. Et effectivement, ça serait la part divine. Mais voyez, justement, comme mon intitulé du thème, c'est ce que la nature est divine. Je voulais parler de part divine sans risquer de tomber dans les ismes que nous connaissons. Mais en revanche, il y a cette présence du Créateur dans tout ce qui existe et qui relève de cette participation. Donc ça, c'est très juste. Mais la part divine, tout dépend, ce que l'expression est pas très, voilà, pas très heureuse dans le sens où qu'est-ce que ça signifie. On participe. Il y a trois niveaux de présence. Il y a la présence d'immensité, présence de grâce et présence de gloire. Vous voyez, dans la déontologie. Et je parlais de la première comme étant tout à fait adéquat, assez bien pour la nature que pour l'homme. C'est le premier niveau de présence.
Je crois que nous pouvons une dernière fois applaudir nos trois interlocuteurs. Voilà.